Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Dans son livre, Ésaïe rapporte les paroles de l'Éternel. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils se sont retirés en arrière. » Dieu adressait cet avertissement à l'ancien Israël, cette nation qui pourtant avait été témoin de grands miracles. Mais vous, vous qui m'écoutez ce matin, connaissez-vous Dieu mieux que l'ancien Israël? Les pays occidentaux sont peuplés de gens pour qui Dieu demeure un mystère et reste toujours irréel. Mais cela ne les empêche pas de le prier, de l'implorer, de réclamer son intercession, et beaucoup de gens sont déconcertés car leurs prières ne sont pas exaucées. Cependant, Dieu révèle sa remarquable personnalité et sa toute-puissance dans le seul livre inspiré, la Bible. L'apôtre Paul écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La plupart des gens qui croient être chrétiens ne font que suivre l'enseignement inculqué par leurs parents ou par leurs maîtres à penser religieux. Mais ont-ils vérifié cet enseignement dans la parole de Dieu qui seul peut mettre de l'ordre dans les opinions différentes et les concepts variés sur l'identité et la nature de Dieu? Un tel flot de croyances prouve que ces gens ne peuvent pas tous avoir raison. Alors, est-ce bien au Dieu vivant qu'ils s'adressent? Vous seriez bien étonné d'entendre la réponse, mais qui s'y intéresse? La réponse à cette question vous stupéfierait, mais vous intéresse-t-elle vraiment? Paul fut bien inspiré d'écrire « Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu ». Ailleurs, il explique que les dispositions naturelles de l'homme s'opposent à Dieu sans que nous nous en rendions bien compte. Lorsqu'une conversation aborde un sujet religieux fondamental, les gens se sentent mal à l'aise et ne tardent pas à changer de sujet. Avez-vous déjà remarqué cela? En général, l'homme souhaite que Dieu ne s'occupe pas de ses affaires. Il ne désire son aide ou son intervention que lorsque la maladie ou le malheur l'accable. Les êtres spirituels sont invisibles pour vous et moi. Cette caractéristique ne facilite pas notre connaissance de ces êtres, elle pousse même de nombreuses personnes à être sceptiques à ce sujet. Dans son évangile, Jean nous rapporte l'identité et la nature divine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole dont il est question ici est traduite du grec « logos », qui signifie « parole » ou « porte-parole ». Dans ce cas précis, il s'applique à un personnage. Qui est ce personnage? La réponse nous est donnée un peu plus loin. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce passage fondamental de l'évangile de Jean mentionne donc deux personnages divins. L'un de ces deux êtres divins, la parole, devint chair et sang en naissant sous les traits de Jésus-Christ. Ce personnage abandonna sa divinité pour prendre un corps physique. Ainsi, il devint visible à ses contemporains, et en l'engendrant, le Très-Haut devint son Père. Par conséquent, la parole devint le Fils de Dieu, ce qu'elle n'était pas encore dans le récit des premiers versets de l'Évangile de Jean. Une relation filiale ou paternelle survint dès que Marie conçut miraculeusement Jésus-Christ. La Bible révèle qu'initialement, il y avait deux personnages. L'un est appelé Dieu et l'autre est appelé la parole qui, elle aussi, était Dieu. La Bible nous révèle également que Dieu a créé tout ce qui existe dans l'univers, la terre et tout ce qu'elle contient. Cette révélation nous fournit l'occupation de Dieu, ce qu'il fait. Il conçoit, il crée, il façonne, il donne la vie. Dieu est le Créateur. Toutefois, nous apprenons qu'il a créé toute chose par la parole. Cette parole qui devint chair, et qui est donc Jésus-Christ. Comment la parole crée-t-elle? Le livre des Psaumes nous répond. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Paul ajoute, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Paul fait mention de Melchisédek, qui était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il existait de toute éternité, puisque sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement du jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu, et demeure sacrificateur à perpétuité. Puisque ce Melchisédek de l'époque d'Abraham était semblable au Fils de Dieu, et qu'il demeure sacrificateur à perpétuité, puisque Jésus est Fils de Dieu et est désormais notre souverain sacrificateur, possédant un sacerdoce qui n'est pas transmissible, Melchisédek et Jésus ne sont qu'une seule et même personne. Dieu et la parole existent depuis toujours. Ils ont toujours été ensemble de toute éternité. Mais n'étant pas encore fils à l'époque d'Abraham, il n'était que semblable au Fils de Dieu qu'il deviendra plus tard. Ils forment tous deux le noyau initial de la famille divine. Actuellement, cette famille se compose de Dieu le Père et de son Fils, Jésus-Christ, mais elle s'agrandira bientôt. Un grand nombre d'êtres humains engendrés de Dieu naîtront dans cette famille lors de la résurrection. Dieu, cette famille divine composée de deux êtres spirituels, est esprit. Le Tout-Puissant est le Père, l'Éternel est Jésus-Christ, le Fils. Voilà pourquoi cette famille ne semble pas réelle à la plupart des gens. On s'est imaginé l'Éternel ou Jésus-Christ de bien des façons différentes. Pour certains, c'est une idole d'or ou d'argent, de bois, de pierre ou de plâtre. Lorsque Moïse était en compagnie de l'Éternel sur le Sinaï, les Israélites le représentèrent sous la forme d'un veau d'or. Dieu et la parole se composent d'esprit, ils ne sont pas physiques, ils ne sont pas composés de matière, de chair et de sang, comme les êtres humains. Bien qu'ils soient invisibles, le Très-Haut et l'Éternel ont tous deux une forme et une apparence bien précises. D'ailleurs, lors de la création, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Nous savons tous à quoi ressemble un homme. La Bible nous dit qu'il est à l'image et selon la ressemblance divine. Dans de nombreux passages des Écritures, Dieu évoque son visage, ses yeux, son nez, sa bouche, et ses oreilles, ses bras, ses jambes et ses mains. Puisque nous savons à quoi ressemble un homme, nous pouvons deviner la forme et l'apparence de Dieu, car il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'un des disciples demanda à Jésus de lui montrer le Père. Il lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le Christ ressemblait au Père. N'était-il pas Dieu avec nous? N'oubliez pas qu'il était le Fils engendré de Dieu. Dieu a la forme et l'apparence d'un homme, mais il est composé d'esprit et non de chair, et à moins de se matérialiser miraculeusement, un esprit est invisible. Nous venons de déterminer l'apparence divine. Mais que savons-nous sur la nature de Dieu, son caractère? Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ possède un caractère de sainteté spirituelle, de justice et de perfection absolue qui se résume par le mot amour. Cet amour qui consiste à donner, à se soucier des autres, à servir, à aider, à partager. La nature de Dieu, c'est aussi la paix, la miséricorde, le bonheur et la joie qu'il veut accorder à toute sa création. La façon de vivre de Dieu engendre la paix, la coopération. Elle est décrite par une loi qui est un véritable code de conduite. Cette loi d'amour existe. Qui dit loi, dit gouvernement. Le gouvernement de Dieu existe. Dieu le Père en est le responsable suprême. La loi de l'Éternel a été révélée pour guider l'homme dans le chemin qu'il parcourt sur terre. Cette loi se résume en deux grands commandements, l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Ces deux grands commandements se subdivisent en 10 commandements qui, à leur tour, sont détaillés dans le reste de la loi, dont la Bible dit qu'il ne peut en disparaître un seul iota ou un seul trait de lettre. La Bible nous raconte que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il s'agit ici d'une création physique. Le mot « Dieu » est traduit du mot hébreu « Elohim », qui est un mot collectif. Il sous-entend plus d'une personne, comme c'est le cas pour les mots « famille », qui se compose automatiquement de plusieurs individus, « Église », qui comprend plusieurs fidèles, ou « groupe », qui rassemble plusieurs membres. Ce nom Elohim désigne ces deux êtres qui sont Dieu. La parole est Dieu, chacun étant Dieu. Dieu est donc une famille dont la composition se limite à ces deux êtres pour l'instant, le Père et son Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas une personne. Il est tout simplement la puissance de Dieu, la pensée de Dieu qui guide le chrétien. Lorsque l'apôtre Jean évoque le commencement, il parle de la parole et de Dieu, personne d'autre. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il relate la vision qu'il eut de la Nouvelle Jérusalem, il mentionne le trône de Dieu et de l'agneau. Ici encore, il ne fait allusion qu'à deux personnages divins. Il en est de même pour la vision de Daniel, décrite dans le 7e chapitre de son livre. Daniel ne vit que deux personnages et non pas trois. La Bible nous dit que les chrétiens possèdent le Saint-Esprit de Dieu et se laissent guider par lui. Elle nous dit aussi qu'ils sont fils de Dieu, mais engendrés seulement, non encore nés dans le sein de la famille divine. Ils naîtront au retour du Christ sur cette terre. Nous pouvons donc affirmer que Dieu est une famille qui se compose actuellement de deux personnes mentionnées dans Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 4. Mais des milliers d'êtres humains convertis, qui par conséquent vivent de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ont été engendrés par le Saint-Esprit et ils naîtront au sein de cette glorieuse famille lorsque le Christ reviendra. Dieu et la parole existent donc de toute éternité. Ils sont une famille dont Dieu le Père est le chef et dans laquelle naîtront les chrétiens réellement convertis tels que la Bible les décrit.